Europe 1, 9h-11h, Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question avec une première heure de débat autour de l'idée de certains députés de supprimer des lignes aériennes intérieures trop polluantes. Plus de Paris-Nice ou de Paris-Toulouse, demain, après-demain. Mais alors comment fera-t-on alors qu'on remultiplie le temps de trajet par 3 ou par 4 en train avec des prix du billet parfois supérieurs à ceux de l'avion? C'est une question qui nous interroge en tout cas sur nos déplacements, sur la coexistence de différents modes de transport en France alors que les députés examinent la fameuse loi mobilité cette semaine et dans les jours qui viennent. Quel transport privilégiez-vous? Eh bien, on vous attend pour réagir. Le standard est ouvert. Bonjour Julie.
Le 39-21. Bonjour Wendy. 50 centimes la minute. C'est pas pour Wendy, c'est pour le standard.
Voilà, on vous rappelle évidemment. À 10h, on va parler du mensonge, qui est un art très partagé en société, du petit menteur, tricheur, travestisseur de réalité, au gros mytho, mythomane, comme on dit. Pourquoi ce besoin irrépressible de mentir? Est-ce qu'on y succombe un peu tous? Et pourquoi? Eh bien, peut-être pour mieux vivre ensemble, c'est la théorie en tout cas de notre invité. Et vous viendrez réagir, je le suis sûre, nombreux sur le sujet. C'est le sommaire du jour de ce mardi 4 juin. Soyez les bienvenus.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec nos invités, spécialistes des mobilités, de l'environnement, de la SNCF, du trafic aérien, ils sont là mobilisés pour mieux répondre à vos questions, alors que certains parlementaires veulent en effet la fin des vols intérieurs. Bonjour Delphine Bateau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, députée des Deux-Sèvres, présidente de Génération Écologie. Vous faites partie de ces parlementaires qui ont déposé un amendement qui sera débattu dans quelques jours, notamment sur les dessertes aériennes intérieures. Vous avez dans le viseur des lignes qui pour vous n'ont plus aucune justification, qui sont devenues polluantes de surcroît. On va en prendre quelques-unes qui parleront à nos auditeurs. Pour l'avion, les lignes Paris-Marseille ou Paris-Bordeaux n'ont plus de sens à partir du moment où il existe une alternative, par exemple TGV, pour ces deux destinations.
Oui, complètement. On a le choix en fait. Il y a beaucoup de situations aujourd'hui où dans leurs déplacements, les Français n'ont pas le choix, sont par exemple dépendants de l'automobile. Moi, je suis élue d'un territoire rural, les Deux-Sèvres, donc je sais ce que c'est. Là, sur les parcours dont on parle, on a le choix en fait entre l'avion qui va émettre 50 à 60, 70 fois plus de gaz à effet de serre et le train. Donc après, on peut rentrer dans les détails sur les problèmes du prix du train, etc. Mais le principe de maintenir ces liaisons aériennes est une aberration écologique, tout simplement. À partir du moment où vous pouvez faire ces trajets en train de façon extrêmement rapide, il n'y a pas de raison de maintenir ces liaisons aériennes.
Et pourquoi vous ne comptez pas sur simplement l'esprit aussi critique des voyageurs qui ont le choix et qui peut-être à force privilégieront justement un mode de transport plus
parce
écologique?
Parce que le rôle de la puissance publique aujourd'hui est de comprendre qu'on est dans une situation d'urgence pour le climat, par rapport aux pollutions, qu'il y a un compte à rebours qui est celui qui est établi par le GIEC, c'est-à-dire par les scientifiques, qui on a grosso modo 10 à 12 ans pour diviser par 3 nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on ne peut pas continuer comme avant, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas ces informations alarmantes sur la dégradation complète du climat.
Et les vols intérieurs sont vraiment un problème dans cette
Les vols intérieurs dont on parle sont substituables. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une autre solution pour faire le même voyage, pour faire le même déplacement, dans un délai, encore une fois, rapide. Quand, si on prend l'exemple de Paris-Marseille, c'est 3 heures et des poussières en train. Faites le calcul, le temps d'aller en région parisienne à l'aéroport, de passer les contrôles de sécurité, de prendre l'avion, d'arriver à Marignane, puis de rejoindre le centre-ville de Marseille. En fait, il n'y a pas de gain de temps à l'avion dans cet exemple précis.
On se dit simplement psychologiquement qu'on peut faire l'aller-retour dans la journée plus facilement. Idem pour un Paris-Toulouse, vous mettez aujourd'hui 5 heures en train, un Paris-Nice 6 heures en train, alors que vous êtes à 1 heure d'avion. Pascal Perry,
on va prendre... Paris-Toulouse, c'est 4 heures en train, c'est pas 5.
Ah, c'est 5 heures maintenant.
Non, 4h07.
C'est 4h07
2 heures pour aller à Bordeaux, 2 heures pour faire Bordeaux-Toulouse.
Oui, très bien. 4 heures, bon, très bien. Donc, je reprenne le train pour aller à Toulouse. en tout cas, on parlera de Paris-Castres, par exemple. Paris-Castres à 800 km. Castres, si vous enlevez l'aéroport, vous refaites de ce territoire un territoire enclavé. C'est bien le problème, Pascal Perry, pardon, que je présente également, économiste à LCI, vous qui présentez Periscope. Et vous avez écrit, il y a quelques années, mais ce livre a fait référence, SNCF, un scandale français. Vous connaissez le train et le trafic aérien. sur la proposition de Delphine Bateau ou d'un certain nombre de parlementaires. Quelle est votre position ?
D'abord, je veux dire que je suis un ami du train. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup le train et j'ai aucune hostilité. Pour moi, il n'y a pas de match entre le train et l'avion. C'est des moyens de transport qui sont assez complémentaires. Je rappelle que 80% des vols aériens font plus de 1500 km dans le monde et que à cette distance, le train n'est plus tout à fait pertinent. Alors, c'est une proposition qui est intéressante, mais il faut rentrer dans le détail. Moi, je conteste le bilan CO2 du train. Je considère que, par exemple, dans le bilan CO2 du train, on n'intègre pas les coûts d'infrastructure, notamment, qui sont considérables.
Pascal, ce que vous dites est faux.
Non, ce n'est pas faux.
Si, j'ai vérifié.
Mais donc, moi aussi, j'ai vérifié.
En fait, les bilans sont faits en analyse du cycle de vie intégrant tous les coûts.
Non,
tous les coûts carbone.
C'est pas vrai. Les coûts carbone de l'infrastructure...
Citez-moi l'étude sur laquelle vous vous battez.
Les coûts carbone de l'infrastructure ne sont pas pris en compte. C'est le premier point. Et le deuxième point, quand ils sont pour partie pris en compte simplement, c'est sur une période de 10 ans. C'est-à-dire qu'on considère qu'au bout de 10 ans, il y a un amortissement du coût CO2 de l'infrastructure qui ramène le match dans les conditions que vous avez évoquées tout à l'heure, ce que je ne conteste pas. Mmh. C'est vrai que, de façon basique, le transport aérien émet plus de CO2 que le train. Il n'y a aucun doute sur ce terrain-là.
50 fois plus,
dans les conditions de recalcul, premier point. Deuxième point, le transport aérien intérieur, il a une vocation économique aussi, qu'on ne peut pas nier. La plus grande majorité des gens qui prennent l'avion vont alimenter le hub de Roissy, c'est-à-dire alimenter en réalité des avions long courrier. C'est un modèle économique. Le modèle économique des compagnies aériennes, il s'est bâti sur des alliances internationales et sur la maîtrise de son marché domestique. C'est le marché domestique qui alimente le long courrier. Donc ce que je crains, si vous voulez, c'est qu'en privant Air France de son trafic court courrier, parce qu'il y a en France une situation de monopole dans ce domaine, on en vienne également à interdire à Air France d'alimenter son hub, d'alimenter des vols long courrier qui produisent un petit peu plus de revenus. Souvent, d'ailleurs, vous savez, et c'est pas tout à fait sincère sur le plan économique, le Marseille-Paris qui va ensuite à New York, à Rio ou que sais-je, il est offert. Il n'est pas payé par le voyageur. Donc, le modèle économique repose sur l'alimentation du hub. En privant la compagnie nationale de ses vols intérieurs, ou en réduisant en tout cas la part des vols intérieurs, on risque de la menacer. Et ce que j'écrivais hier dans le journal Les Échos, c'est que pendant ce temps-là, dans le monde du transport aérien, les compagnies du Moyen-Orient, du Proche-Orient, les compagnies du Golfe notamment, qui bénéficient d'avantages comparatifs, qui sont des avantages de soft diplomatie, c'est-à-dire ce sont des compagnies qui ne payent pas le kérosène à son prix, qui ne payent pas de redevances, de taxes d'atterrissage, qui bénéficient, si vous voulez, d'avantages comparatifs. Ces compagnies viennent se servir sur notre marché domestique et privent Air France d'une clientèle dont elle aurait aujourd'hui besoin. Donc, c'est une situation déséquilibrée. Il faut examiner tous les éléments.
Mais on va le faire.
Le train est tout à fait vertueux. Il est même essentiel dans l'aménagement du territoire. Madame Bateau parlait de son territoire d'élection. Je suis moi-même originaire du centre France, Madame Bateau. Brive, Clermont-Ferrand, c'est la zone grise de la SNCF. Pour ceux qui vivent dans ces territoires, il n'y a malheureusement ni la solution du train, ni celle de l'avion, rarement en tout cas, il reste la voiture. C'est là-dessus qu'il faut travailler.
Oui, et je vous donne la parole juste après la pause pour répondre Delphine Bateau et surtout Christophe Dubois, grand reporter pour la télé, co-auteur de Descente aux Enfers, vie et mort de la SNCF, pour essayer de voir justement si le train peut se poser en alternative crédible et si la SNCF, à cet écart, peut se frotter les mains après ce type de proposition. A tout de suite sur Europe 1, déjà des réactions sur les réseaux sociaux que je vous livre dans un petit instant, ne bougez pas.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Contre la pollution émise par le trafic aérien en France, faut-il privilégier les voyages en train ? Wendy Bouchard.
C'est finalement le discours que vous soutenez aussi, Delphine Bateau, avec cette proposition de supprimer un certain nombre de vols intérieurs à l'occasion de cette discussion sur la loi d'orientation des mobilités. Christophe Dubois est avec nous, co-auteur de Descente aux Enfers, vie et mort de la SNCF. Alors, si le train s'y retrouvait dans cette histoire, simplement à cause des tarifs et surtout des temps de trajet, nous dit Sylvie, un Toulouse-Paris en moyenne toujours 5 heures, c'est dingue, on nous a toujours refusé la ligne avec Airbus en fond, donc notre choix est réduit. Caroline, deux trains par jour, horaire inadapté sur la ligne pour aller à Limoges, Paris-Limoges, un aller-retour Limoges-Paris pour trois fois plus cher que trois allers-retours en voiture. Voilà aujourd'hui le problème de l'alternative de mobilité, Christophe Dubois. Et la SNCF est aussi dans le collimateur.
C'est vrai que le train peut être une alternative sur le Paris-Bordeaux, par exemple. C'est déjà un petit peu le cas, d'ailleurs. Un tiers des dessertes aériennes, la desserte aérienne Paris-Bordeaux a baissé d'un tiers depuis qu'il y a un TGV qui met deux heures. Oui. Donc il y a une réalité économique. Mm-hmm. Mais encore faut-il que ces trains, effectivement, partent et arrivent ailleurs à l'heure et qu'il y ait des dessertes régulières. Et ça, c'est une difficulté que l'on voit assez régulièrement. C'est que, quelque part, la SNCF organise sa propre dégénérescence. Et là, je parle des desserts. C'est-à-dire que moins il y a de trains, moins il y a d'usagers. Mm-hmm. Moins il y a d'usagers, moins il y a de recettes. Et moins il y a de recettes, moins on fait circuler des trains. Donc il y a une espèce de spirale infernale qui se met en place. Et c'est cela qu'il faut briser. Alors, en mettant aussi des moyens, en mettant de l'investissement, notamment sur la... On parlait tout à l'heure des trajets, on faisait un peu le Tour de France, mais c'est vrai que le Paris-Brive, on le fait aujourd'hui en plus de 4 heures. Il y a 20 ou 30 ans, on le faisait en moins de 4 heures. Donc c'est quand même une aberration technologique, alors qu'on fait des trains qui vont plus vite, qu'on a des moyens d'entretenir le réseau qui sont plus performants. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'il y a un problème d'entretien du réseau et de moyens que l'on met en œuvre. C'est vrai qu'on a privilégié aussi le TGV pendant un certain nombre d'années, pendant 20 ou 30 ans, et ça a pénalisé fortement l'entretien du réseau qui explique tous ces problèmes de retard, de trains peu réguliers. Et en ce qui concerne les tarifs, effectivement, là on est dans un maquis de tarifs, personne n'y comprend rien. Prendre un train aujourd'hui sur des trajets courts, d'ailleurs, ça devient un produit de luxe.
Oui, absolument.
J'ai pris à titre personnel un train pour aller à Valenciennes le week-end dernier. J'ai payé presque 100 euros un aller-retour.
Vous êtes seul, quand vous multipliez par 3 ou par 4 en famille, ça devient en effet un produit de luxe.
Voilà. Oui, beaucoup. Et donc il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème d'organisation aussi interne à la SNCF, qui fait que, ce qui explique aussi cette mauvaise qualité de service, ce qui fait que les usagers se reportent sur la voiture ou sur d'autres moyens de transport. Et on a aussi un problème de culture au sein de l'entreprise SNCF, où on a perdu le sens du départ à l'heure. Alors ça peut paraître assez aberrant, mais on fait aujourd'hui des programmes spéciaux pour juste lancer le message auprès des agents SNCF qu'il faut faire partir un train à l'heure pour espérer qu'il arrive à l'heure. Ce n'est pas toujours le cas, puisque ce qui peut bien se passer à l'arrivée ne se passe pas forcément bien au départ.
Alors qu'on a une conjugaison d'actualité sur le sujet, puisque les cheminots appellent aujourd'hui à manifester aussi contre la réforme ferroviaire, déjà adoptée par le Parlement, car la SNCF va perdre son monopole, ce qui répond quand même à la question de Nathalie. La SNCF a le monopole, donc pas de concurrence de prix. Ça va s'ouvrir pour l'été 2019, à la fin de l'année, et pour les TGV l'année prochaine. Justement, Delphine Bateau, pour que cette écologie et ces choix que vous proposez ne soient pas punitifs, vous entendez ce que je veux dire, on supprime des liaisons aériennes, mais on doit trouver des substituts aussi abordables pour les voyageurs. Comment on fait ?
Vraiment, je crois que ce qui est punitif, si vous voulez, c'est ce qui est en train de se passer du point de vue du changement climatique.
Ça, d'accord. D'accord,
mais donc on a le choix ou pas de prendre en compte la réalité, c'est-à-dire qu'on doit quand même globalement changer de modèle. Ensuite, je voudrais qu'on parle de ce qu'est cette proposition et pas de ce qu'elle n'est pas. Mm-hmm. Par exemple, il n'est absolument pas question de supprimer les vols de correspondance. Il est question de supprimer les liaisons aériennes directes en vol intérieur sur des trajets qu'on peut faire raisonnablement en train. Donc ça ne concerne pas Paris-Tarbes, ça ne concerne pas Paris-Perpignan, ça ne concerne pas Paris-Nice, ça concerne Paris-Bordeaux, Paris-Marseille, ainsi de suite. Pour qu'on comprenne bien la première étape dont il est question.
C'est quoi ainsi de suite ? Il y a Paris-Biarritz aussi ? Vous pouvez nous en citer quelques-unes qui parleront à nos auditeurs ?
Oui, je peux vous en citer plein, mais pour prolonger ce qui est dit sur la SNCF. En fait, on est dans une situation aujourd'hui où le coût kilomètre par passager, il est de 4 centimes pour l'avion, alors qu'il est de 10 centimes pour le train. L'avion ne paye aucune taxe sur le kérosène. L'avion bénéficie d'un taux réduit de TVA sur les vols intérieurs. Donc en fait, l'avion ne paye pas l'impact qu'il a sur le climat et sur l'environnement comparativement au train. Et donc on a, dans la situation de la SNCF, toute une série de causes très profondes qui ont été exposées.
Mais ça, c'est encore un autre sujet, Delphine Bateau, la taxe kérosène.
Mais il y a aussi un problème aujourd'hui qui est de mettre en place des taxations environnementales sur l'avion au bénéfice du ferroviaire et de l'investissement ferroviaire sur la remise à niveau des réseaux et sur la baisse des prix de train.
Donc vous voulez dire, on dégoûte les passagers.
Par exemple, il y a une aspiration aujourd'hui des jeunes, même sur des parcours de 1500 km, à prendre le train de nuit. les trains de nuit ont été...
Qui vont être supprimés par la SNCF.
Ont été détruits en France. En 10 ans, vous regardez la carte de France des trains de nuit il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est absolument sidérant. Il est prévu d'investir 26 milliards d'euros dans le Lyon-Turin, qui est totalement inutile. Alors que ces 26 milliards d'euros, on aurait besoin de les déployer sur un plan d'urgence ferroviaire. Moi, je suis dans un territoire rural où on nous a supprimé 3 TGV par jour à la gare de Saint-Mexant, l'école, dans les Deux-Sèvres. Donc
La faute alors ? À qui la faute ? Qui a décidé de supprimer ces lignes ? Parce qu'elles n'étaient pas rentables ? Pas assez remplies ?
Les gouvernements successifs ont creusé la dette de la SNCF, n'ont pas fait les investissements nécessaires. Ça a été la politique aussi du tout TGV.
Oui, mais il n'y avait pas assez de voyageurs non plus, malheureusement, ou pas ?
Ah, je pense que s'il y a un potentiel de voyageurs très important, il y a un problème de train.
34% du réseau voit passer 2% des passagers. C'est extrêmement simple comme équation. Moi, je suis candidat à rien, je peux donc parler de la liberté. Je peux parler en toute liberté de la réalité économique. Il y a quand même des injonctions paradoxales, si vous voulez, dans cette affaire-là. L'État est tout à la fois l'actionnaire de la SNCF, il lui demande de produire des dividendes et il lui demande d'investir massivement, d'assurer une mission de service public. Vous savez, c'est pas simple d'être dirigeant de la SNCF aujourd'hui, parce que vous êtes face à cette équation, vous avez en effet un tiers du réseau qui voit passer 2% des passagers. Vous faites quoi ? En toute logique, en toute bonne logique comme gestionnaire d'entreprise, vous vous dites je vais fermer ces lignes, je vais remplacer éventuellement des trains vides par des autocars ou des minibus qui seront un peu mieux remplis. C'est peut-être aberrant, Delphine Bateau, mais c'est la réalité dans le département de la Corrèze ou du Lot, auquel je pensais en faisant cette réflexion. Moi, j'ai passé une partie de ma jeunesse à voir circuler des trains vides. Bon, est-ce que c'est la mission du service public que de promener des Michelines dans les campagnes françaises, qui plus est au gasoil ? La réponse, c'est non. Il faut trouver des solutions opérationnelles différentes. La deuxième chose, c'est que la SNCF fait quand même un certain nombre d'efforts. Elle investit, c'est un contrat de plan, elle investit presque 3 milliards d'euros chaque année dans l'infrastructure. On a pris beaucoup de retard, je vous le concède. Je concède qu'on a pris beaucoup de retard, qu'il y a en effet des lignes qui sont dévitalisées. Néanmoins, la SNCF, elle suit l'évolution de la population. Il y a 50 ans, la moitié des Français vivaient à la campagne. On avait besoin du train, y compris dans les petites villes. Aujourd'hui, presque 80% des Français vivent dans une ville. Il y a des régions qui sont désertifiées. Est-ce qu'on maintient des trains à ces endroits-là ? Il y a quand même l'équation de la gestion. Alors, ça, c'est la première réflexion. La deuxième, pour faire écho à ce que dit Delphine Bateau, et ce que j'entends, c'est vrai que la SNCF a mené une politique tarifaire qui a désorienté les consommateurs. Néanmoins, aujourd'hui, on trouve pour le même produit, le même service, des prix qui vont du simple au triple ou du simple au quadruple selon les conditions dans lesquelles on consomme son voyage. On a réservé très longtemps à l'avance, c'est le principe du revenu management. On a réservé très longtemps à l'avance, le billet n'est pas échangeable, non remboursable, non modifiable, et on bénéficie d'un petit prix. C'est comme ça qu'on remplit des trains. On est dans une activité de capacité. Dans une activité de capacité, chaque place qui n'est pas vendue, c'est de la production qui est perdue de façon définitive. Donc on ne peut pas demander à la SNCF de tout à la fois dynamique sur le terrain tarifaire, efficace sur le plan économique et un peu partout sur le territoire. C'est compliqué, vous l'acceptez.
Oui, mais moi je crois au service public ferroviaire.
Non mais ok.
Alors, je crois aussi à une nouvelle stratégie d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'en fait, dans la même loi, je prends cet exemple pour qu'on comprenne, dans la même loi, je propose un moratoire sur la construction de nouveaux centres commerciaux à l'extérieur des villes. Je prends cet exemple-là pour qu'on comprenne qu'on doit entrer dans une nouvelle stratégie d'aménagement du territoire, où on ne peut plus allonger les distances à l'infini, allonger la dépendance à la bagnole
Après la pause, si vous voulez bien, avec Christophe Dubois, votre réflexion aussi, comment le train justement était censé réaliser cet aménagement du territoire. A tout de suite sur Europe 1. Suppression de lignes aériennes intérieures, c'est une proposition d'amendement d'un certain nombre de députés. Le train peut-il à cet effet remplacer l'avion, ou quel mode de transport allez-vous privilégier ? Nous avons Jacques au 39-21 dans un instant.
C'est train là, monsieur, c'est pour Pau.
Oui, monsieur, puisque vous m'avez demandé Pau.
Non, mais il n'y a pas de problème, oui. Ils sont directs ?
Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg.
Quoi, il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau ?
Bah oui, monsieur, sinon vous iriez tout droit en Allemagne. Ah, il y a des vedettes,
Il y a des vedettes,
hein.
Ah,
les vedettes, ça c'est sûr. Est-ce que vous vous privez de prendre le train aujourd'hui à cause de ces tarifs, en dépit des liaisons totalement surréalistes de Chevalier-Las Palès? Ça nous fait du bien pour replacer le débat aussi aujourd'hui, alors que nos invités sont en studio pour nous parler. Delphine Bateau, notamment de votre amendement, vous qui êtes députée des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l'écologie, pour supprimer des lignes aériennes intérieures trop polluantes, alors que l'alternative train existerait sur un certain nombre de tronçons. Pascal Perry, économiste à LCI, est avec nous, auteur de la SNCF, un scandale français, et Christophe Dubois, co-auteur de Descente aux enfers, vie et mort de la SNCF. On est dans une politique qui, en Scandinavie et notamment en Suède, vise à décourager un certain nombre aujourd'hui de voyageurs de prendre l'avion. C'est un peu le nem en chem, une introspection qui nous ferait dire que nous devons, citoyens du monde, réfléchir aussi à nos mobilités. Encore faut-il qu'il y ait des alternatives. C'est le problème français, Christophe Dubois. On va peut-être un peu trop vite sans proposer ce qu'il faut aux Français pour changer de comportement.
Je vous racontais une anecdote. Parmi les gens qu'on a rencontrés pour faire ce livre, certains nous ont dit qu'ils préféraient l'avion sur des destinations où avant il y avait des trains. Je pense notamment au Paris-Clermont-Ferrand, parce que la desserte est tellement irrégulière, tellement de mauvaise qualité, qu'on préfère quand
on
même
prend moins de risques en avion.
Quand on a un rendez-vous professionnel, on est à peu près sûr d'arriver à l'heure. Alors, je ne vous parle même pas de la région parisienne où, statistiquement, on est sûr une fois par semaine d'avoir du retard quand on prend un transport en commun. Donc effectivement, oui, évidemment, pour le train qui a des qualités. Alors, peut-être que le train d'aujourd'hui est encore trop polluant, mais il y a des réflexions pour faire des trains à l'hydrogène. Enfin, il y a des réflexions là-dessus au sein de la SNCF. Mais encore faut-il une fois que le service soit à la hauteur. En ce qui concerne les tarifs, effectivement, le tarif des trains, des TER notamment, est très largement subventionné par les régions. Et c'est un vrai sujet. Je crois qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui va être rendu très prochainement, parce que la question est de savoir à quoi correspond le prix payé par les régions sous un système de concession. Alors, on voit bien qu'il y a une fronde des régions. Aujourd'hui, il y a la bataille du rail entre les régions et la SNCF. Beaucoup de présidents de régions considèrent que ce qu'ils payent ne correspond pas aux services rendus par la SNCF. Et c'est là où l'enjeu de la concurrence qui arrive va peut-être être assez salvateur, va peut-être remettre un petit peu d'ordre pour savoir qu'est-ce qu'on paye réellement quand on paye un billet de train.
Car ça veut dire que sans ces subventions, le billet de train serait encore plus cher?
Enfin, la part réelle payée par l'usager du train est minime. Genre, je n'ai plus les statistiques en tête. Voilà,
Paris-Nice, 270 euros en train aujourd'hui.
Attention, Wendy, c'est sur le trafic en Ile-de-France, sur les trains de proximité, la part de la subvention est de l'ordre de 75% du coût complet. Il faut intégrer, on ne va pas rentrer dans le détail du coût complet, mais 75% du coût complet. Le voyageur paye 25%. Donc, ça nous dit en substance que le train est une activité très largement subventionnée, alors que l'avion, et l'avion n'est absolument pas pertinent sur les courtes distances, paye l'ensemble de ses coûts d'exploitation.
Qu'est-ce qu'on paye avec cet argent?
Sur 100 euros d'un Paris-Marseille en avion, la moitié sont des taxes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est mais ça a une vertu. Le train, c'est un outil d'aménagement du territoire. C'est un outil historique d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, la SNCF facture environ 21-22 euros du kilomètre parcouru aux régions. Les régions se plaignent que l'offre est insuffisante, mais là aussi, il faut dire la vérité, ce sont les régions qui commandent les kilomètres transportés à la SNCF. La SNCF est devenue l'opérateur, celui qui décide. Par exemple, en Ile-de-France, c'est le STIF, le syndicat des transports d'Ile-de-France. C'est lui qui commande un certain nombre de milliers de kilomètres.
Mais pourquoi c'est si cher? PAT 42 nous dit aujourd'hui, un Paris-Saint-Etienne à deux adultes, deux enfants, c'est minimum 400 euros aller-retour.
Là, on est sur des trains longue distance. Et je crois qu'il faut distinguer, il y a trois secteurs. Bien comprendre qu'ils ne sont pas comparables. Il y a un, les trains de proximité, et notamment ce que Christophe évoquait tout à l'heure, l'Ile-de-France. 80% des trains en France roulent en Ile-de-France.
D'accord.
C'est premier point. Deuxième point, vous avez le réseau TGV, avec une politique tarifaire qui est une politique extrêmement flexible, politique dynamique et variable, comme on le disait tout à l'heure. Il y en a pour tous les prix, selon les conditions dans lesquelles on consomme le produit, un peu comme dans le transport aérien. Et puis, il y a un troisième paquet, qui est le paquet des intercités. On a cité Clermont-Ferrand, Limoges, Brive, la Normandie, etc. Des lignes qui ne sont pas à grande vitesse, mais qui correspondent à des lignes d'équilibre, d'aménagement du territoire, sur lesquelles...
Ils ont déficitaires, peut-être.
Il y a un déficit considérable. Deux, qui sont, en termes de fréquence, de capacité insuffisante.
Je dois juste vous couper. Pour une petite pause, et Delphine Bateau, je vous fais réagir sur cette politique tarifaire qu'on a du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'on paye quand on paye un billet de train?
Le tour de la question sur la suppression de lignes aériennes. Le train peut-il remplacer l'avion, Wendy Bouchard?
On a posé une question sur Facebook à nos auditeurs. Ils ont été nombreux, 4000 à voter depuis ce matin. Julie, résultat
vous
des courses.
Vous privez-vous de prendre le train à cause de ces tarifs? Oui, à 79%. Mmh. Je ne prends plus le train, surtout pour les retards. Alors là, c'est autre chose. C'est Charlie qui nous dit ça. Je vis en campagne où il n'y a plus de train à des horaires convenables, écrit Christophe. Alors là, sur les tarifs, écoutez JR qui nous écrit « Mon frère militaire a droit à 75% de réduction sur le train. Eh bien, pour faire Paris-Toulouse, il prend l'avion parce que c'est moins cher. »
Mmh. C'est incroyable, alors qu'il a 75% de réduction. Le problème des fameuses alternatives, alors
vérifier,
que Carter a vérifié.
C'est étonnant, mais...
C'est dingue, hein. Alors que Carter, sur le Twitter hashtag Europe 1, nous dit « Le train entre Paris et Tours, un produit de luxe, plus de 120 euros l'aller-retour en seconde classe pour 220 km. » Il a calculé, il le prend régulièrement, c'est trois fois plus cher que la voiture, alors qu'on est à Paris-Tours à 50 minutes, hein, aujourd'hui, Delphine Bateau. Qu'est-ce qu'on paye quand on paye si cher un billet pour des lignes de proximité comme celle-ci, par exemple?
On paye les conséquences des différentes lois de réorganisation successive de la SNCF. Et donc, en fait, aujourd'hui, dans le modèle du TGV notamment, vous avez, particulièrement pour les LGV, vous avez le droit de passage, le péage que chaque TGV doit payer à SNCF Réseau, qui représente à peu près 30% en moyenne, 30% du prix
pour
du billet.
Pour entretenir le réseau.
Et qui a donc des conséquences sur la recherche qui va être faite dans ce modèle économique-là, de remplissage des trains, et surtout le nombre de trains par jour. Et je rappelais tout à l'heure la suppression de 3 TGV par jour à la gare de Saint-Mexant-l'École dans les Deux-Sèvres, qui conduit les gens à prendre la voiture pour aller à Poitiers ou à aller à Niort. C'est à cause de cette histoire de faisceau et de droit de péage que la SNCF a réduit le nombre de TGV sur cette liaison. C'était pas un problème technique, en fait. C'était une question de modèle économique. Oui. Alors, la question du modèle économique, elle renvoie effectivement au fait qu'il doit être soutenable, mais qu'on est quand même dans une logique de service public. Mm-hmm. Et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, l'avion est massivement sponsorisé aujourd'hui par l'État. Vous avez 42% des aéroports en Europe qui sont totalement déficitaires. Et vous avez plusieurs référés de la Cour des comptes sur les exemptions fiscales dont bénéficie le trafic aérien, qui est de l'ordre de 3,6 milliards par an. Donc c'est quand même très considérable. Par le fait
pas de taxe sur le carburant, vous dites.
Il n'y a pas de TVA, pas de taxe sur le carburant. Sur un litre d'essence, vous payez 68 centimes de fiscalité. Sur le kérosène
normal,
des avions, zéro. Mmh. Zéro.
Alors, juste un mot, avant de vous donner la parole, Pascal Perret, juste un mot sur les liaisons. Par exemple, quand on prend un Paris-Nantes, TGV Atlantique a été inauguré, quoi. Paris-Nantes, c'était au moins il y a 20 ans. On pourrait se dire que la ligne, ça y est, a été rentabilisée, qu'elle devrait coûter moins cher. On a les mêmes infrastructures, même si on en prend soin. Pourquoi ça reste si cher? Un Paris-Nantes ou un Paris-Angers.
Faire circuler un train, ça coûte très cher. Il y a l'entretien du réseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux structures. Il y a effectivement, enfin, jusqu'à aujourd'hui, il y avait SNCF Mobilité.
Oui.
Donc c'est le train que vous prenez. Et il y a SNCF Réseau qui est la composante qui entretient le réseau. Et c'est vrai que les péages servent à entretenir ce réseau. Et alors c'est vrai que ça rentre dans le prix du billet. Et si on enlève ce péage, ce qui peut être une solution, pourquoi pas, ça ne résout pas le problème du financement du réseau, qui est le problème numéro un. Alors il y a une estimation qui a été faite selon les informations que l'on a eues. Pour remettre en service les petites lignes, sur 10 ans, il faudrait 7 milliards.
On les a. Pardonnez-moi, mais on
ça,
les a.
C'est une question de volonté
le
politique.
Le Lyon-Turin, c'est inutile et c'est 26 milliards d'euros d'investissement financés par l'Europe. Donc la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec ce grand projet inutile, c'est que toutes les subventions européennes au développement du ferroviaire en France, on va les mettre, au lieu d'améliorer Paris-Caen, Lyon-Grenoble, etc., où on a une multitude de problèmes, les RER en Ile-de-France qui sont dans un état scandaleux, et ben en fait, tout l'argent des fonds européens pour le ferroviaire en France, on le met sur une seule infrastructure dont l'utilité est très contestable.
Il y a aussi un problème de productivité à la SNCF. Depuis 10 ans, on sait qu'il y a 30% de productivité que la SNCF n'arrive pas à gagner quand on regarde ce qui se fait ailleurs, en Allemagne notamment. Donc ce problème-là existe aussi, c'est un problème d'organisation. Il y a des lourdeurs au sein de la SNCF, il y a eu des erreurs politiques, il y a des réformes qui n'ont pas été faites quand il fallait le faire, et c'est ce qu'on paye aussi aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'ouverture à la concurrence, qui n'est pas une privatisation...
Est-ce que tout peut changer à l'horizon 2020?
Alors, tout va pas changer d'un seul coup, tout ça va prendre du temps, c'est d'ailleurs une ouverture progressive, ça va d'abord concerner le TER, RER, puis les TGV, puis les intercités. Donc tout ça va se faire progressivement. Ce que l'on voit en Europe, notamment en Allemagne, c'est que ça a été plutôt bénéfique. C'est que l'ouverture à la concurrence. D'abord, l'opérateur national, l'opérateur historique, garde la majorité de son marché. En Allemagne, je crois que la Deutsche Bahn a perdu environ un tiers des lignes.
Oui.
Et le service est amélioré. Et
ça notamment, veut dire que des la concurrence lignes, pourrait combler les lignes, le manque de petites lignes.
Les petites lignes qui étaient en déshérence totale en Allemagne ont été remises en service. Et ça marche. Et ça marche parce qu'effectivement, pourquoi laisser une ligne où il y a deux passagers par jour? Ça n'a aucun sens. Mais parce que le service n'existe pas, parce que les trains ne partent pas au bon horaire, parce que les écoliers n'arrivent pas à l'heure à l'école. S'ils arrivent à 8h15 alors que la cloche sonne à 8h, ça n'a pas de sens.
Mais tout le monde ne peut pas arriver à 8h sur une ligne, par définition. C'est ce qui est compliqué dans un trafic en réseau. On ne peut pas être partout.
Non,
le train
ne
peut pas s'arrêter partout à chaque point du réseau à 8 heures. C'est pas possible.
Il faut
faire un certain nombre de choix.
Imaginez peut-être d'autres modes de financement.
Exactement. Mais vous évoquiez la question des péages. Oui, nous sommes dans une activité à forte intensité capitalistique.
Vous n'avez pas compris que tout le monde ne peut pas arriver à 8 heures au même moment. C'est-à-dire que sur le réseau, on ne peut pas desservir toutes les gares à 8 heures au même moment.
Prenez,
le réseau
vous prenez
n'est pas
Aurillac, Saint-Flour, Clermont-Ferrand, Vichy. Le train ne peut pas s'arrêter à 8 heures partout.
Mais
il y a un train, par définition. Il roule et donc il est mobile. Il ne peut pas s'arrêter à 8 heures partout. C'est très compliqué.
C'est aussi le problème de la saturation le dimanche en retour de week-end.
Exactement, ça s'appelle la pointe et c'est très compliqué à gérer. Il n'y a pas que dans le domaine des transports, dans le domaine de l'énergie aussi, c'est extrêmement compliqué à gérer. C'est tous les effets de réseau sur lesquels on travaille en économie. Mais c'est vrai qu'on est dans le cadre d'une activité à haute intensité capitalistique. Il faut payer le réseau. Le réseau physique, à la différence de l'avion qui, lui, vole, le train roule sur un ballast. Il faut l'entretenir, il faut le développer. Ça coûte 19 euros en moyenne. Quel que soit le billet de TGV que vous prenez, vous payez 19
euros
de péage.
Plus écologique, mais pas plus économique.
Alors,
au final,
ça peut être à terme plus économique.
Terme, oui.
Mais je crois qu'il faut partir sur un calcul simple, quand même. La SNCF nous a coûté collectivement 50 milliards d'euros chaque année. Nous payons 3,5 milliards d'euros pour boucher les trous du régime de retraite spécial des cheminots. On ne peut pas dire que ce n'est pas une activité ultra-subventionnée. Ça peut être un choix politique. C'est un choix politique, d'ailleurs.
Aujourd'hui,
mais on ne peut pas travestir la réalité.
C'est un
choix politique qui coûtera très cher aux contribuables, il faut leur dire.
Merci Pascal Perry. Delphine Bateau, je vous laisse la parole juste après la pause. Et Jacques nous appelle de Lille et veut réagir au 39-21. Tous vos témoignages également qu'on relaie sur le hashtag Twitter,
hashtag Europe 1,
et hashtag Tour de la Question.
Pour les réseaux sociaux.
À tout de suite avec Wendy Bouchard.
Quel avenir pour le train? On en parle avec les invités de Wendy Bouchard. Delphine Bateau est avec nous, députée des Deux-Sèvres, présidente de Génération Écologie, ancienne ministre de l'écologie. Pascal Perry, économiste à LCI, qui a notamment écrit « SNCF, un scandale français ». Retard, emploi détruit, manque à gagner, dette secrète, subvention déguisée. Tout ça, vous assumez, Pascal?
Oui.
Aux éditions Erol.
Il y a 10 ans, mais ça reste établi.
Ça s'est amélioré depuis.
Et puis Christophe Dubois est également avec nous en studio, grand reporter à la télévision, co-auteur du livre « Descente aux enfers, vie et mort de la SNCF » chez Fayard. Décidément, SNCF.
Oui. Et oui, dans le collimateur, alors qu'on essaye justement de remettre en marche le train comme alternative à l'avion, notamment sur les petites lignes intérieures. Un certain nombre seraient trop polluantes et n'auraient plus tout à fait lieu d'être. L'amendement sera bientôt examiné. C'est l'amendement 50. On en est à l'amendement numéro 1 pour la loi.
Non, c'est pas l'amendement 50. Il y en a 3000 des amendements.
Mais
c'est après l'article 50.
Après
donc
l'article 50.
Ce sera à la fin du débat sur la loi mobilité.
Donc, grosso modo, dans combien de temps?
Disons plutôt le jeudi ou vendredi de la semaine prochaine.
D'accord, ah oui, c'est ça. Donc vous avez du temps pour échanger sur ce sujet-là et c'est bien aussi de s'arrêter un peu en la matière. Faut-il faire en sorte que le train reste aussi compétitif et un outil d'aménagement du territoire? Jacques est avec nous au 39-21. Bonjour monsieur. Bonjour Jacques. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Jacques?
Tout à fait.
Voilà,
vous
bonjour.
M'entendez.
Absolument.
Vous m'entendez bien?
Lille, absolument. Bonjour.
Oui, c'est cela. Bon, j'ai écouté patiemment. D'ailleurs, on a un petit peu dévié sur le sujet d'origine, qui était une comparaison pour certains trains ou avions sur le territoire français.
Mm-hmm.
Alors, je voulais simplement vous dire que la méthodologie pour la comparaison n'est pas tout à fait bonne. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement. Quand vous prenez le train, je vais commencer par l'avion, si vous voulez. Quand vous prenez l'avion, bon, il faut aller à l'aéroport. C'est en général un aéroport, il n'est pas en plein centre-ville. Donc, il faut prendre sa voiture, il faut laisser sa voiture, il faut payer éventuellement, ou alors on prend un taxi. Mmh. Ensuite, pour aller dans l'avion, eh bien, il y a les bagages, il faut attendre, on contrôle, on entre dans l'avion, et puis le voyage se passe, on arrive, on attend ses bagages, et puis bon, je voyage énormément, je connais ça, j'étais encore il y a 2 jours. Bon, je pense que si...
Vous voulez dire, en fait, un Paris-Nice, c'est pas 1h10, c'est 3h porte-à-porte. Quoi,
voilà, je veux dire tout simplement qu'on ne peut pas dire le train pour aller de tel endroit à tel endroit, il met 4h, et l'avion met 1h30, donc c'est plus rapide par l'avion. Bah, c'est un peu erroné la manière de raisonner.
Que nous avons peut-être ici en studio, parce que la manière que vous, dont vous amenez votre amendement est celle-ci, Delphine Bateau. Hein, vous considérez justement que porte à porte, si l'on calcule les voyages en avion ou en train, on s'y retrouve.
C'est un argument que j'ai avancé tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est-à-dire que le gain de temps, dans bon nombre des cas, il est superficiel, il est en apparence, mais la réalité concrète vécue, effectivement, pas du tout celle-là, ni d'ailleurs en termes de coûts, parce que vous avez raison d'évoquer les coûts de parking ou les coûts de taxi pour se rendre à l'aéroport.
Oui, encore faut-il qu'on soit incité, merci Jacques, de cette petite précision, encore faut-il qu'on soit incité à prendre le train. C'est bien le problème qui se pose aujourd'hui. Il y a la politique incitative.
Jacques a parfaitement raison. Il faut intégrer un coût complet. Le coût complet, c'est en effet de porte à porte, parce que c'est ce qui va laisser une empreinte écologique. Oui. C'est aussi
entre
ce qui représente
voiture, bus,
un centre de coût. On ne peut pas comparer, un billet d'avion entre Paris et Toulouse à 50€, puis un billet de train à 75€. Il faut ajouter, en effet, le taxi qui va du centre de Paris éventuellement, ou de l'endroit où on vit à l'aéroport, et la suite. Donc, un coût complet, une analyse coût complet, elle est absolument
Mais c'est psychologique, souvent.
On est aujourd'hui, c'est ce que Jacques doit intégrer aussi, et nous tous, on est dans une activité de capacité. Mmh. La capacité offerte au marché, elle est parfois sous-abondante, parfois surabondante. Il y a, comme dans toutes les activités qui sont des activités humaines, des pics, des creux et des pics. Le véritable enjeu pour la SNCF aujourd'hui, et c'est d'ailleurs toutes les limites d'un réseau physique, c'est de proposer suffisamment de capacité au moment où la demande s'exprime. La demande, elle s'exprime majoritairement le matin, le soir, pendant les week-ends, il y a une saisonnalité, si vous voulez, du transport. Or, sur un réseau physique, par définition, la capacité de production, elle est limitée.
Donc, on a des modes alternatifs qui permettent de désengorger. Alors,
les modes alternatifs permettent de désengorger. J'ajoute que, si on voulait être parfaitement honnête, aujourd'hui, prenons l'axe Nord-Sud. L'axe Nord-Sud en train. Sur la section qui va de Paris jusqu'à la Bourgogne, c'est-à-dire le premier embranchement qui va soit vers le sud, soit vers l'est du pays, là, on est à la capacité maximum. Le cadencement des trains est à son niveau le plus élevé. Si on voulait augmenter le nombre de personnes transportées, il faudrait probablement construire un deuxième réseau. On peut choisir de le faire, ou on peut choisir autre option, un réseau alternatif qui permettrait de desservir ce qu'on qualifiait tout à l'heure de désert ferroviaire, mal alimenté, les régions de Nevers, de Moulins, les régions d'Orléans, enfin tout ce qui est entre les deux axes de grande vitesse, c'est-à-dire l'axe atlantique et le sillon rhodanien, ce serait peut-être une solution alternative. Coûteuse, mais utile.
Par exemple, voilà, exemple concret d'un nœud d'engorgement.
Ce que ça signifie, c'est qu'en fait, il faut que la France retrouve une ambition ferroviaire forte. L'urgence écologique l'impose. Mm-hmm. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce soit le seul mode de transport, mais qu'on doit, par rapport d'abord au transport du quotidien, enfin, franchement, l'État, dans un certain nombre de régions, que ce soit les RER en Ile-de-France ou que ce soit les TER dans un certain nombre de régions, est parfaitement anormal. Les retards subis sont parfaitement anormaux. Les trains annulés sont parfaitement anormaux. Donc, en fait, ça veut dire quand même un changement de priorité assez radical.
Ça veut dire que, oui,
ensuite, sur la comparaison avec l'avion, il y a une chose qui n'a pas été dite qui est très importante, c'est que les petits courriers ont un bilan carbone. Si vous voulez, le décollage, montée en altitude, atterrissage, c'est le pire pour un avion. Donc en fait, le bilan carbone d'un Paris-New York et d'un Paris-Marseille rapporté au kilomètre...
Pour vous cibler les petites lignes intérieures.
Ah ben oui.
A tout de suite sur Europe 1, Christophe Dubois veut s'exprimer sur le sujet. On fait encore le tour de la question quelques instants sur le sujet.
Le tour de la question. Quel avenir pour le train ?
Alors,
Wendy Bouchard.
Nous parlions avec Pascal Perry, Delphine Bateau, de, voilà, absolument, de ces petites dessertes aussi de train dans l'aménagement du territoire essentiel pour désenclaver les territoires, pour booster leur attractivité économique. Ça a été voilà, une politique étatique de laisser le problème de côté. Aujourd'hui, le choix, l'autre choix doit se prendre, Christophe Dubois. Est-ce que c'est possible avec les moyens de la SNCF où on doit attendre beaucoup de cette ouverture à la concurrence ? Redynamiser ces territoires avec le train.
Ce qu'il faut comprendre, que le train, la gare, c'est parfois la dernière infrastructure qui relie une ville à Paris, notamment. Je pensais au Paris-Châteaudun. Châteaudun a perdu sa base militaire. Il y a un train qui passe, mais qui ne s'arrête pas, un TGV. L'hôpital existe peut-être encore, mais est menacé. Enfin, vous voyez, donc c'est... Et le jour où le train n'est plus assuré, il est très mal assuré. Hein. On a interrogé des usagers qui reçoivent en permanence des alertes pour leur dire que le train ne part pas. Et donc, ils finissent leur trajet en taxi, souvent. Mais voilà, c'est symboliquement, parfois, le dernier point de ralliement et de survie quasiment d'une ville. Donc c'est un choix écologique, ça paraît évident, mais c'est aussi un choix politique. On nous a souvent expliqué au cours de notre enquête que là où le train disparaissait, on voyait monter le Front National. Le mouvement des Gilets jaunes part aussi beaucoup d'un problème de transport, de mobilité, d'infrastructure. Donc on voit bien que ça ne peut pas être qu'une question de coût et arithmétique. Il y a au-delà de cela, une portée forte autour de la survie du train. Et il y a des solutions. On a vu notamment dans le sud-ouest, en Dordogne, où il y a beaucoup de petites lignes qui sont en péril, où on met de plus en plus de temps pour faire des petits trajets, des communes se mobiliser, des communautés de communes, et qui ont mis la main au pot pour remettre en état des petites lignes, et ça fonctionne. Encore une fois, là où il y a du service, on crée une demande et on repart dans un cercle vertueux. Et c'est ce qu'on a vu, on en parlait tout à l'heure, en Allemagne. Donc, c'est possible, ça coûte cher, il faut sûrement innover. Alors, c'est vrai que l'État a fait un cadeau empoisonné aux régions dans le cadre de la nouvelle loi en donnant la possibilité aux régions de reprendre la gestion des petites lignes, en disant nous, on ne peut plus assurer le financement de ces infrastructures. Si vous voulez les garder, vous les prenez à votre compte. Donc là, on voit bien qu'on rentre dans quelque chose qui va être compliqué sur le plan budgétaire.
Mais qui a philosophiquement plus de sens. Hein. Redonner aussi ces pouvoirs aux régions dans l'esprit d'aménagement du territoire.
C'est peut-être aussi une manière un peu facile de se débarrasser de ce sujet, qui est un sujet qui on parle d'aménagement du territoire. Donc c'est pas seulement une question régionale.
En attendant qu'on rouvre des lignes, qu'on relie de nouvelles dessertes entre elles, que pensez-vous les uns les autres de ces fameux bus favorisés par la loi Macron, ce qu'on a appelé les bus Macron, et tout un tas de compagnies qui jouent le jeu. Un bond grandiose deuxième trimestre 2018, 2,5 millions de passagers transportés, 43% de plus que l'année 2017 à la même période. L'objectif, c'est 20 millions de voyageurs d'ici à l'année prochaine. C'est une alternative crédible, Delphine Bateau, qu'il faut
non, pour soutenir ? Pour moi, non, clairement.
Pourquoi ? C'est marginal, anecdotique ?
Parce que remplacer le train par des cars, franchement, c'est pas le sens de l'histoire. Je crois qu'il y a une question pour rebondir sur ce que disait Christophe Dubois.
Ça peut être des bus propres. Hein.
Aujourd'hui, c'est est-ce qu'on regarde en face l'urgence écologique et est-ce qu'on tire vraiment les leçons du mouvement des Gilets jaunes ? Parce qu'on est vraiment, au travers de la mobilité, sur la rencontre des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux. On doit aujourd'hui ouvrir la page d'une nouvelle stratégie que j'appelle, moi, une politique de démobilité. La pollution de l'air, c'est la première cause de mortalité en France. Des vies quotidiennes dans lesquelles il faut faire 1h30 de transport matin, 1h30 de transport le soir, dans des RER qui ne marchent pas,
où
on récupère tard les enfants, etc. C'est pas une bonne qualité de vie. Donc, il faut envisager aujourd'hui les questions de mobilité et d'aménagement du territoire, pas seulement comme un débat d'offres, c'est-à-dire est-ce que c'est mieux l'avion, le train, le car, la voiture électrique, etc. Mais aussi sur comment on réduit les besoins de déplacement à ce qui est absolument nécessaire, soit du plaisir, les vacances, etc.
C'est débattu en
mais
ce sens à l'Assemblée
pas
en ce moment.
Un fardeau. Non, la loi mobilité qui est présentée aujourd'hui, elle ne s'inscrit pas du tout dans cette logique de démobilité. Elle reste dans un débat qui est un débat sur quelles sont les différentes offres existantes, quelles sont les alternatives,
oui,
mais pas... comment, à moyen et long terme, on a une stratégie d'aménagement du territoire. On arrête d'éloigner là où on habite de là où on travaille. On arrête de devoir aller faire des courses lointaines à l'extérieur.
Donc, ce n'est pas cette année encore. Bon. 20 secondes pour conclure, Pascal Perry, pour nous donner un peu de raison
d'espérer. L'autobus n'est pas un moyen d'avenir de transport. C'est une évidence, surtout sur de longues distances.
Oui,
en revanche, sur de très courtes distances, là où le train qui fonctionne au gasoil n'est pas pertinent. Vous savez, un train vide qui fonctionne avec un moteur diesel, c'est une catastrophe écologique. Mieux vaut un mini-car. Ça, c'est le premier point. Première réflexion. Deuxième réflexion, la concurrence. La façon dont on va ouvrir la concurrence, c'est central. Il faut aujourd'hui imposer aux nouveaux acteurs de prendre ce qu'il y a de bon sur le marché, mais aussi ce qu'il y a de moins bon, comme on l'a fait en Suède. Des grandes lignes rentables avec des petites lignes qui sont des lignes d'aménagement du territoire.
Merci beaucoup, messieurs Pascal Perry. On vous retrouve ce soir entre 16h et 17h sur LCI pour l'émission Périscope. Delphine Bateau, on vous retrouve à l'Assemblée pour défendre notamment ses arguments et cette position exposée ici, députée des Deux-Sèvres et présidente de Génération Écologie. Et Christophe Dubois, on peut lire votre livre « Descente aux enfers, vie et mort de la SNCF » paru aux éditions Fayard il y a quelques semaines. Merci Christophe.
Merci.
Et à tout de suite sur Europe 1 pour parler du mensonge dans tous ces états, de notre vie familiale à la scène politique. Oui, en effet, mentir est une qualité, un vice ou un défaut, ce que vous voulez, mais en tout cas bien partagé. A tout de suite, peut-être pour mieux vivre en société.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.